9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé, bon matin. Voilà, et quand Karima Shadibaou est là, je dis bon matin Karima.
Bon matin Philippe, bon matin à tout le monde, je suis contente d'être là.
Moi aussi, vous êtes psychothérapeute, vous êtes coach parental et familial, et vous m'avez dit ce matin, j'ai envie de parler aux gens et avec les gens.
Oui.
Elle est au taquet, moi je vous dis, Karima, aujourd'hui. On va parler d'un sujet alors, qui est à la mode, alors, parce qu'il y a beaucoup de livres qui sortent, il y a des modes, hein. Il y a des thématiques hein, qui sortent un petit peu dans les maisons d'édition. On va parler de la colère, mais nous on avait décidé de l'évoquer pas d'un point de vue philosophique, mais d'un point de vue, on va dire de gestion du quotidien, parce que c'est ça qui nous intéresse, et de parler de ce que vous appelez, Karima, la colère saine.
Oui.
La colère, c'est une émotion, mais c'est pas une émotion négative. Vous aimez pas qu'on utilise le mot négatif.
Non, parce que c'est une émotion, c'est toutes les émotions d'ailleurs. Hein, on n'a pas à les juger en fait. Est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien, est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle est négative. On va plutôt réfléchir autrement. C'est-à-dire qu'on va dire est-ce qu'elle est appropriée ou pas, est-ce qu'elle est adaptée ou pas au contexte. Voyez, parce que si on juge cette émotion, ben forcément on rentre dans un processus de refoulement où on va finalement ne pas l'exprimer, ne pas lui donner la place et surtout Philippe, ne pas écouter le message de cette émotion, parce que émotion ça veut dire mouvement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, et notamment avec la colère, parce que dans notre éducation, dans notre culture, c'est pas bien d'être en colère, c'est pas bien de montrer, donc il vaut mieux montrer un visage plutôt souriant, un visage voilà, avec un sourire, même si derrière ce masque se cachent parfois donc des choses terribles, hein, des difficultés, des choses, des dépassements en fait de limites, parce que la colère c'est ça qu'elle vient exprimer. Quand justement des limites sont dépassées, quand les frontières de mon identité ne sont pas respectées, quand mon intégrité physique, psychologique, spirituelle ne sont pas aussi respectées, donc du coup la colère vient nous informer là-dessus, nous dire que là il y a quelque chose qui se passe et qu'il faut s'arrêter un moment et justement s'en libérer, créer un chemin pour la laisser s'exprimer. Beaucoup de parents, aujourd'hui on est mercredi, et beaucoup de parents viennent avec cette demande de dire ben, comment je fais moi quand mon enfant me met à bout, quand mon enfant me met hors de moi, quand il est là, il pleure tout le temps, quand il est là, il est en train de chouiner, ou quand il veut un jouet, il veut ceci ou il veut cela, comment je dois réagir? On veut bien être dans la bienveillance, mais par moments, c'est difficile, quoi.
C'est que, comme on dit souvent, il y a la théorie, et après, il y a la vraie vie, il y a la pratique.
Exactement, réalité. Ouais. La réalité.
Et comme on dit souvent, finalement, quand un enfant lui-même se met en colère, c'est un peu la honte pour les parents qui se disent, bah, je suis un mauvais parent, il m'affiche.
Oui.
Et quand on est face à la colère d'un ado, pas toujours facile. Hein.
Pas toujours facile, parce que l'ado va utiliser un outil hein, qui est la provocation pour nous mettre hors de nous, parce qu'il veut réclamer quelque chose, ou des droits, ou il veut dépasser un petit peu, élargir son territoire d'action, son champ d'action, et donc acquérir de nouvelles compétences aussi psychosociales. Donc il va le faire la manière qui est disponible à ce moment-là, qui est celle de la provocation, celle de la rébellion. D'accord, celle de la revanche aussi parfois, et donc du coup ça nous demande nous en tant que parents d'être vraiment compétents à ce niveau-là et d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe chez l'enfant et aussi en nous, parce que souvent avec la colère, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que c'est difficile de gérer la colère et d'en faire une colère saine, c'est que souvent on se débat avec, vous savez, c'est comme dans les sables mouvants, plus vous bougez, plus vous, enfin moi j'ai
plus
toujours
vous
vu
vous
ça
enfoncez.
Dans les films Indiana Jones hein, et compagnie, quand ils tombent dans les sables mouvants, la consigne c'est arrête de bouger quoi, ne bouge plus, écoute ce qui se passe, observe ce qui se passe et regarde autour de toi, il y a plein de ressources autour de toi qui peuvent t'aider et t'extirper de ce bourbier dans lequel tu te trouves. Et ben avec la colère c'est un peu la même chose, c'est on est en train de gesticuler, c'est de la gesticulation qui peut se transformer en agressivité, qui se transforme malheureusement très très souvent en agressivité et qui se transforme aussi parfois en violence, là, avant de commencer avec Kim, avant de commencer l'émission, de parler de, être violent, la colère souvent est associée à la violence. Parce que c'est vrai que c'est une émotion qui est très forte.
Parce qu'on a la colère et on a son expression.
Oui, exactement.
Il y a deux choses.
Absolument.
Et là, ce dont on est en train de parler, c'est de l'expression de la colère, là. La crise de colère, finalement.
C'est ça, exactement. C'est ne pas confondre la colère, c'est ça. elle nous informe qu'il se passe quelque chose, elle nous informe qu'il y a une limite qui a été dépassée, elle nous informe que nos frontières identitaires ou nos frontières au niveau de notre territoire, notre champ d'action a été soit violé, soit quelque chose qui s'est introduit, une intrusion. Et donc, c'est ma manière d'exprimer mon désaccord, c'est ma manière de dire non. Quand je dis non, c'est un non, et ce non, il doit être ferme, il doit être clair, d'accord ? Parce que souvent, derrière le non, vous savez que tous les débats qu'on a pu avoir sur le consentement et tout ça, vous savez, en ce moment, c'est très à la mode, où on dépasse à quel moment, c'est quoi ? Il y a quoi derrière le non ? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière un non ou pas ? Ou un non, est-ce que le non, derrière le non, il peut y avoir un oui, ou... C'est pareil avec les colères, c'est exactement la même chose. Donc, quand je dis non, il y a comment je l'affirme, donc c'est une question aussi d'assertivité, d'affirmation de soi, c'est ça l'assertivité, comment j'affirme non et je dis non, et tout en étant dans une réaction, on va dire, saine et constructive. Parce que c'est ça, en fait, qui est en jeu. C'est quand ce n'est pas constructif et qu'on est là, on dit non et tout se déchaîne autour et on va faire du mal et on va blesser et on va heurter et on va être violent, on va être agressif, on va être barbare à la limite. C'est là où ça pose problème, que la colère pose problème. Mais la colère est saine, je le répète encore une fois, trouver un chemin pour l'exprimer d'une manière saine et accueillir aussi nos enfants, parce que c'est très petit que ça commence à s'exprimer, les accompagner et pas la refouler en eux. Parce que quand vous refusez à votre enfant d'exprimer un non, d'exprimer son désaccord par rapport à une situation, si vous lui montrez comment il doit le faire et comment il peut le faire d'une manière saine, appropriée et écologique, ça veut dire quoi écologique ? Ça veut dire dans le sens qu'elle est adaptée au système et adaptée aussi au contexte, d'accord ? Il y a une manière, il y a une bienséance à avoir avec ça, et on doit l'enseigner à nos enfants, on doit la transmettre à nos enfants. Si vous ne l'autorisez pas et vous ne lui apprenez pas, ça peut donner des dégâts plus tard à l'âge adulte. À l'adolescence, on n'en parle pas, mais à l'âge adulte aussi, c'est une personne qui ne saura pas finalement qui elle est, ne saura pas ce qui est bon pour elle ou ce qui n'est pas bon pour elle.
C'est-à-dire que la façon dont qu'on a de se mettre en colère, elle s'apprend et elle s'acquiert à l'enfance.
Ah oui, absolument, absolument. Et plus tôt elle s'acquiert, de dire vraiment mettre des mots dessus, sur des réactions. On va aider aussi parce que dans les émotions, donc la colère fait partie des émotions primaires, les émotions de base. L'émotion de la colère, c'est une énergie qui est très haute, qui est très puissante.
Alors, on a eu cette discussion hier. Elle se situe où, l'énergie de la colère ? Est-ce que vous pouvez la définir, cette énergie ?
Alors,
de la colère ?
Alors, l'énergie de la colère, c'est quelque chose qui... Dans le corps, déjà. Donc, on va l'exprimer.
Elle est où ? Dans le corps,
corps, elle est au niveau du plexus solaire. Vous savez, c'est...
On parle de tripes souvent, vous la situez là ou
Oui, exact, un tout petit peu plus haut, c'est au niveau de l'estomac haut, en fait. Au niveau de l'estomac, et elle circule en fait entre le nombril, vous voyez, le nombril et le plexus solaire ici, et qu'elle va venir ici au niveau de la poitrine. Vous savez, quand vous dites non, comme ça, vous savez, le non, comme ça, qui sort de là, de non, un vrai non. Alors moi, je fais plein d'exercices
bon,
avec les...
Celui-là est bien, là, vous le tenez.
Ah là là, moi je savais, Philippe, le matin je suis en énergie très très haute, parce que moi je suis dans tempérament colérique, mon tempérament prend sa source dans la colère, ça veut pas dire que je suis en colère tout le temps, ça veut simplement dire que je suis souvent en énergie très haute, vous voyez, donc j'ai besoin que les choses se fassent vite.
Regardez, votre nom, il est beaucoup plus haut que l'ombre de la colère.
Oui, il est beaucoup plus haut parce qu'il est, en fait, je le prends au niveau de mes tripes, comme vous l'avez dit, et je le fais monter avec le souffle pour pouvoir l'exprimer, qu'il puisse sortir de la gorge. Vous voyez, les personnes qui ont une difficulté à le dire non, déjà dans leur posture, ils ont au niveau des épaules, la cage thoracique est fermée et ils sont repliés sur eux-mêmes. Et puis quand ils disent non, c'est non, non, j'ai dit non, je veux pas, non, non, ouvre le non et n'aie pas honte de dire non. Je veux dire, il n'y a pas quand vous accompagnez l'enfant et que vous lui dites voilà ceci, que vous lui dites un non ferme et définitif sur quelque chose, il ne va pas chercher derrière une justification ou une explication. Quand c'est non, c'est non. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui se travaille au niveau, donc on l'a dit, au niveau du corps, du haut du corps, du nombril, en passant par le plexus solaire, c'est-à-dire au-dessus de l'estomac, et qui arrive et qui s'exprime par la gorge. Le non, l'affirmation de soi, c'est ici, ça se passe ici dans la gorge. Quand je dis ici, je suis en train de montrer, j'ai oublié qu'on était à la radio, mais on est filmé en même temps. Donc au niveau de la gorge, donc d'exprimer ce non, Ça, c'est la première des choses. Ensuite, donc, une énergie qui est haute, qui est forte, elle, c'est une énergie, la colère, c'est une énergie de combat. Ça veut dire quoi, de combat? Ça veut dire qu'il mobilise, en fait, toute la biochimie du cerveau, qui va mobiliser, en fait, toute ma combativité quand il y a une valeur qui est heurtée, une question d'injustice, ou alors que je me sens impuissant dans une situation. Je vais aller, d'ailleurs, c'est le point qui représente, et puis une énergie très chaude, le feu. Elle est comparée en médecine traditionnelle chinoise au feu. Pourquoi ? Parce que tout le corps est en branle, tout le corps se mobilise pour aller mener un combat contre la violation qui a eu, qui est venue en fait me heurter. Heurter soit mes frontières identitaires, il y a une intrusion. Dans ma manière de penser, dans mon intégrité physique, il y a quelque chose qui vient me toucher, alors j'ai pas donné l'autorisation à ce qu'on me touche, dans au niveau de mes valeurs, quelque chose qui n'est pas, et souvent je le répète ici, je l'ai déjà dit plusieurs fois, que nos valeurs, c'est notre colonne vertébrale psychologique, d'accord, c'est ce qui fait que c'est la structure en fait qui fait que c'est ma source de motivation, qui fait que je vais me mobiliser, que je vais faire des choses, que je vais bouger, que je vais m'engager, que je vais militer, et donc on a besoin justement de cette énergie. Alors imaginez quand on dit non, te mets pas en colère, non, ne fais pas, non, c'est pas bien la colère, et qu'en fait on est en train de priver l'être humain de quelque chose qui est fondamental, quelque chose qui est même vital. Donc on l'accompagne à exprimer cette colère d'une manière qui est saine et constructive et non destructrice, pardon, ou toxique. Voilà. j'ai ma langue.
C'est mal vu aujourd'hui de se mettre en colère, d'ailleurs, oui. Parce qu'on parle de perte
de contrôle.
Donc,
oui, c'est mal vu. Et puis même dans les courants spirituels.
Dans certaines cultures, c'est super mal vu de se mettre en colère.
Même spirituellement, beaucoup de gens le disent, ceux qui sont engagés dans un chemin spirituel, disent « Ah non, la colère ». Donc en fait, vous n'êtes pas des êtres humains, quoi, si vous ne vous mettez pas en colère. Vous n'êtes pas des êtres humains. Moi, c'est ce que je dis, vous n'êtes pas des êtres humains. L'être humain est créé avec cette émotion, comme la peur, comme la joie, comme l'angoisse, comme la tristesse. On est traversé, l'être humain, c'est un flux, les émotions c'est des flux, qui nous traversent. Et si ces émotions, on ne les écoute pas, on n'en est pas en train de s'écouter, on n'écoute pas notre nature humaine. Voyez? Donc ce qu'il faut faire, c'est tout engager un travail d'observation de soi, un travail de régulation de ces émotions qui nous traversent. Parce qu'elles sont là pour nous signifier quelque chose. Elles sont là pour nous apprendre des choses sur nous-mêmes. Elles sont là aussi pour
Alors,
nous...
Alors, donnez un exemple.
Par exemple, la colère, quelqu'un...
Je peux prendre un exemple sur vous?
Oui, allez-y.
De vous.
Allez-y. De vous?
À vous.
Vous en avez un, vous?
Oui.
Allez-y.
J'en ai un sur vous.
Allez-y.
Je vous ai rarement vu en colère, mais récemment, les réseaux sociaux vous ont mis très en colère.
Oui.
Bon. Très en colère.
Oui.
Bon.
Mais
c'est vrai que les réseaux sociaux sont un espace, c'est un espèce de dépotoir.
Ah ouais, non, mais c'est insupportable.
Où les gens se dévident.
Ouais.
Et c'est très violent.
C'est très violent parce que il y a tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup d'informations qui circulent énormément et en fait on est saturé.
Mais c'est violent et vous le prenez en pleine poire.
Ah bon. Oui, parce que vous n'avez rien demandé en fait.
Bon.
Hein,
Donc à ce moment-là. Vous l'avez accueilli en plusieurs phases.
Oui,
c'était comme une fusée, hein.
Absolument.
Qui se détachait. Mais vous avez quand même eu une phase de réaction.
Oui, mais normal. Et cette phase de réaction, c'est ce que je recommande. Donc moi, c'est
une phase de colère.
Ah, mais bien sûr, une phase de colère où on a envie de frapper, on a envie d'hurler,
oui, voilà.
On a envie de. Voilà. Mais surtout, alors moi, c'est ce que je dis. N'essayez pas de la contenir. Quand je dis contenir, parce qu'à l'intérieur. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous défouler, parce que le problème, il est là, qu'on aille se défouler sur les gens. Non. Même si l'origine de votre colère, c'est une personne, c'est une idée, c'est quelque chose. D'accord ? Donc, cette colère, c'est du feu. Le feu, si j'essaye de le contenir avec mes mains, d'accord ? Je vais me brûler. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? D'abord, je vais m'équiper. je vais m'équiper. Donc quand vous allez visiter un volcan, enfin je n'arrive pas tous les matins, mais quand vous allez, voilà, vous savez que vous avez affaire à du feu, vous allez mettre, ben, les pompiers, ils ont affaire au feu, ils y vont pas comme ça. Ils se protègent, ils ont un casque, ils ont un manteau, ils ont des vêtements, des bottes, des choses spéciales en fait, d'accord. Donc je vais, donc moi ce que j'ai fait, première des choses que je, parce que je me connais bien maintenant, je m'isole. Je ne dois pas faire subir les conséquences de mon état émotionnel, quel qu'il soit. La peur, on parle de la colère, la peur, la tristesse ou même l'excès de joie aussi.
Parce que c'est l'entourage qui morfe.
Mais c'est l'entourage, toujours. C'est toujours l'entourage qui morfe. D'accord? Parce que l'être humain, il n'est pas tout seul. Il est dans un contexte, il est dans un milieu. Donc moi, ce que je fais, c'est que je m'isole. Moi, je m'isole. Moi, j'ai un signe aussi à la maison, le temps mort, vous savez, j'ai fait du sport, enfin, à l'époque, plus maintenant, mais le temps mort, voilà, dire, moi, mes enfants le savent, mon mari, je montre le thé comme ça, temps mort pour dire stop, là, il n'y a pas de discussion possible. Tant que je ne reviens pas à l'intérieur de moi, pourquoi? Parce que je suis hors de moi. Ça veut dire que je suis sorti.
C'est ce qu'on dit d'ailleurs souvent, on dit, il m'a mis hors de moi.
Donc,
voilà.
Moi, je dis souvent aux parents, quand les parents me disent ça, je dis, ok, il vous a mis hors de vous. Donc, qui était là? Quand vous n'êtes plus là, qui est là à votre place et qui interagit avec l'enfant? Puisque vous n'êtes plus là, vous êtes hors de vous. Donc, qui est là? Donc, c'est qui? C'est le dragon? C'est qui? C'est Chatamata? C'est qui? C'est la folle? C'est qui? C'est qui? Qui est là? Qui est là?
C'est qui, Chatamata?
D'accord. Chatamata, alors, je suis de marocaine moi, donc on faisait peur aux enfants, on disait Chatamata, elle est là, c'est la folle de service, la Aïcha Kandesha. Non, mais là j'ai découvert sur Aïcha Kandesha, non vous allez rire, hein, et ceux qui nous écoutent, souvent j'entendais ma mère qui disait Aïcha Kandesha, on faisait peur aux gens. Aïcha en fait, Kandesha, c'est Aïcha la Kandesa. La Candesse, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, c'est une femme, c'était une militante et une rebelle contre les colons donc marocaines et tout ça. Et elle se battait et elle était là. Et en fait, pour la décrédibiliser et pour surtout la rendre, faire peur aux gens, en fait, de dire pour qu'ils n'adhèrent pas en fait à son mouvement et surtout à sa lutte, il disait Aïcha Kandesha, c'est la folle, elle sort que la nuit. Et les gens qui la rencontrent, ils peuvent devenir fous en la voyant. Voilà.
On va revenir donc à l'état, hein, quand vous êtes hors de vous. Oui. On parle de la colère ce matin. Si justement vous voulez interroger Karima Chadibaou, vous avez des questions sur la gestion des colères de vos enfants ou vous-même qui peut être débordé parfois, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors, on parle de la colère ce matin avec Karima Chadibaou. On va essayer de définir ce que c'est qu'une colère saine et pourquoi c'est important d'avoir des colères saines. Et on verra tout à l'heure pourquoi ce sont des colères qui nous permettent de construire et de faire des choses.
Absolument.
Et vous êtes là au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Nous avons Yasmina qui est avec nous. Et Yasmina est à Toulouse. Bienvenue, Yasmina.
Oui, bonjour.
Bonjour Yasmina.
Bonjour.
Alors Yasmina, je vais vous demander quelque chose. C'est d'enlever le kit main libre ou le haut-parleur si vous l'avez. Comme ça, on va.
Est-ce que là vous m'entendez?
Voilà, on vous entend parfaitement.
D'accord, très bien. Bonjour à tous.
Bonjour Yasmina.
Bonjour Karima. Alors je vous appelle, je trouve le sujet d'aujourd'hui super intéressant et je suis en plein dedans. Je suis maman solo avec un petit garçon de 3 ans et demi. Mm-hmm. J'ai adopté une façon, on va dire, de le stopper quand il me met en colère. Donc je ne me fâche pas contre lui. Je prends juste une très grande respiration.
D'accord. Super.
Et quand il me voit faire ça, il sait très bien qu'il faut qu'il s'arrête tout de suite. Donc il me dit tout de suite pardon maman. Sauf que juste après ça, moi je culpabilise parce que j'ai l'impression de jouer un peu avec lui.
Oui.
Et en même temps, j'exprime pas moi ma colère. Donc il suffit juste que 5 minutes après, il refasse quelque chose et là ça va exploser, on va dire.
D'accord. En fait, c'est juste une colère à retardement. C'est-à-dire que vous décalez en fait le temps.
C'est ça.
D'accord. Et qu'est-ce qui fait exactement votre enfant qui vous met justement en colère? C'est quoi les choses qu'il fait à 3 ans et demi?
Il fait des petites bêtises, il fait des petits caprices. Après, j'ai du mal avec quand il pleure en fait. Dès que je le vois juste bouder, des fois, ça me met en colère en fait.
D'accord. Ok. Alors là, dans ce que vous dites, Yasmina, il y a deux choses. Il y a quelque chose qui se joue pour vous et avec vous-même, mais qui est déclenché par votre fils. D'accord, oui. Parce que quand vous le voyez pleurer ou faire des bêtises, comme vous avez dit, alors je mets deux guillemets autour des bêtises et autour des caprices, qu'est-ce que c'est en fait pour un enfant de 3 ans et demi? Est-ce qu'il est en train d'explorer son territoire? Est-ce qu'il est en train de tester en fait si maman est fiable ou pas? C'est-à-dire est-ce que je peux... Parce que souvent c'est ce qui déclenche notre colère. Hein. Est-ce qu'il va vous provoquer, il va tester alors j'aime pas trop ce mot mais on va l'utiliser quand même. Il va tester les limites en fait que vous vous posez pour sa sécurité, parce qu'il a besoin de limites pour sa sécurité, pour se développer. Donc il y a la première chose, quelque chose qui se joue en vous et avec vous, qui est déclenché par votre enfant. D'accord ? Et ça, je pense que ça doit être donc le déclencheur qui fait que finalement, après, vous allez réagir, même si vous prenez une profonde respiration, vous allez ensuite culpabiliser et pas être bien. D'accord ? Parce que vous le voyez. Probablement qu'il y a un scénario, quelque chose que vous dites dans votre tête. D'accord, Yasmina, vous allez me dire, hein, je parle sous votre contrôle.
Parce qu'il n'y a pas mort d'homme s'il fait des bêtises.
Exactement.
Il n'y a rien qui se joue, en fait.
Ouais. Non, bien sûr. Donc, non, c'est sûr, c'est après, avec le recul, je me rends compte que vraiment, c'est moi qui ai dépassé les limites et j'ai pas de patience. Je m'en rends compte, mais...
D'accord. Est-ce que votre enfant, est-ce que vous avez discuté avec lui du haut de ses 3 ans et demi sur ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire, ce que vous attendez de vous, c'est-à-dire vos attentes?
Eh bien, j'essaie de lui expliquer ce qu'il a le droit, ce qu'il n'a pas le droit de faire, qu'il y a des choses qui me mettent en colère, d'autres non. Par exemple, des choses toutes bêtes. J'ai pas envie qu'il me fasse des caprices dans un magasin et j'ai la chance s'il m'en fait pas trop.
D'accord.
Tous les parents qui nous écoutent, c'est le drame.
Ça, c'est le drame, c'est clair.
Ah oui, c'est le clair. Grand drame. Alors, à chaque fois, j'essaie de le récompenser, mais je me dis, bon, ça se fait pas quand même de le récompenser juste parce qu'il s'est bien tenu.
Oui, alors justement, vous avez dit le mot, c'est bien tenu. C'est quoi bien se tenir?
Donc, c'est ça. C'est...
Ah ben oui. Donc, alors, je vais vous donner, si vous me permettez, je vais vous donner quelques conseils, si vous acceptez, Yasmina. D'accord? Donc, le premier conseil, c'est déjà d'expliquer à votre enfant, déjà, dans l'environnement où vous trouvez. C'est-à-dire, où est-ce que vous allez? Quand vous allez dans le supermarché, comme vous l'avez dit, dans un centre commercial, vous lui dites les comportements à avoir, le comportement approprié, et pas sous la menace, et pas sous le blâme, et pas sous forme d'ordre. Vous allez le faire sous forme de coopération. Ça veut dire quoi? Mon petit bout de chou, maman a besoin de toi. Pourquoi? Parce que l'enfant, quand il entend, et même à cet âge-là, quand il entend que maman a besoin de lui, il mobilise tout de suite, naturellement, toutes ses capacités, toutes ses compétences pour faire plaisir. En fait, vous allez appuyer sur le levier du fait plaisir. Faire plaisir à maman. Mais en même temps, tu vas te faire aussi plaisir. J'ai envie de passer un bon moment. On va aller, j'ai envie d'aller à tel endroit où je dois aller à tel endroit. Il y aura du monde, il va faire chaud, il y aura du bruit. C'est-à-dire que vous allez lister toutes les choses qui risquent de le...
Toutes les sollicitations.
Toutes les sollicitations, exactement. Toutes les stimulations auditives, donc beaucoup de bruit. Au niveau de la température, parce qu'il fait chaud dans les centres commerciaux ou dans le supermarché. Oui. Donc toutes, et les stimulations visuelles aussi. Et de dire à votre enfant, et je sais compter sur toi, je sais... que tu vas pouvoir faire ceci. Voilà ce que je m'attends à avoir comme comportement. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, Yasmina, vous allez lui donner quelque chose à faire. N'attendez pas, surtout à 3 ans et demi, à ce qu'il soit debout à côté de vous, donne bien la main, bien sage. Vous savez, la définition de l'enfant sage. Oui. Qui bouge pas, qui est sage comme une image. D'accord? Pour moi, c'est pas des enfants qui sont
ça,
vivants.
Ça, c'est dans les séries sur TF1.
Voilà, ça, c'est dans les, exact, chez Super Nanny. Okay. Donc, on a des enfants qui sont vivants, on a des enfants. Donc, vous allez lui dire, voilà, j'ai besoin de toi, tu vas aller nous acheter, 1 kilo de bananes. Tu vas aller nous acheter et voilà, regarde, les fruits sont là-bas où on a besoin. Tiens, on a envie de manger des glaces, tu vas aller les congélateurs s'il y arrive, si c'est pas trop haut, au supermarché. C'est-à-dire donner lui une tâche à la hauteur de ce qu'il peut faire. Et en plus, vous travaillez la confiance, vous lui donnez confiance, vous lui dites « Maman a confiance en toi ». Et en plus, vous allez court-circuiter toutes les crises, les caprices, il veut se jouer, il veut ceci, il veut cela. D'accord? Donc, vous lui expliquez vos attentes. D'accord, d'accord. Que vous avez besoin de lui, expliquez vos attentes et donnez-lui quelque chose à faire, une petite tâche. Et ensuite, vous allez voir, c'est nettement mieux que les récompenses. Parce que votre enfant, c'est pas parce qu'on a tendance à faire ça. Moi, j'ai un chien à la maison, vous savez. Et donc, quand il s'assoit et qu'il est... Et je lui donne une récompense. Votre enfant, non. Vous allez le stimuler. Moi, je célèbre Ragnar, mon chien. Vous allez en fait développer cette cette compétence. Il va se récompenser tout seul. Comment il va faire ça? En disant, waouh, je suis grand, regarde maman, j'ai grandi, j'ai pesé les pommes de terre, ou pas les pommes de terre, mais les tomates, ou les bananes, les légumes. Regarde maman, je les ai ramenés, et du coup, il est en train de collaborer avec vous. Et du coup, c'est aussi les chemins de l'autonomie. Donc, vous voyez, rien que là-dedans, vous développez énormément de compétences.
D'accord. Okay.
Est-ce que ça vous aide,
Bien sûr que ça m'aide. Bien sûr. Super. Parce que, mais moi, le fait de la récompense, ça me plaît pas. Parce que, comme vous avez dit, vous avez un chien que vous récompensez et moi, c'est un enfant.
Ben oui. Exactement.
Et ça me dérange dans l'idée de me dire que je récompense mon enfant. Mais
c'est vous achetez la paix d'une
certaine
façon.
Mais c'est ça.
Vous achetez la paix d'une certaine façon.
C'est la seule astuce que j'ai réussi.
Voilà. Et le point d'accès, l'axe de, pour vous, parce que vous travaillez avec vous-même. Au début d'émission, je m'avais entendu parler de observez-vous. Qu'est-ce qui me met en colère? C'est pas, alors, vous n'allez pas vous poser la question pourquoi je suis en colère? Parce que pourquoi je suis en colère, vous vous rendez coupable. Donc vous cherchez un coupable à ça. Mmh. Donc soit c'est vous, soit c'est votre enfant. Dans les deux cas, c'est pas bon. Mmh. D'accord? Okay. Donc posez-vous, dites-vous, ok, je m'observe moi-même, je prends un temps de respiration comme vous le faites déjà, et dites-vous, ok, qu'est-ce qui est heurté chez moi?
Finalement, qu'est-ce qui m'a mis en colère?
Exactement, et pas pourquoi, qu'est-ce qui m'a mis en colère? Est-ce que c'est le fait que je n'y arrive pas avec lui et ça me renvoie à une image négative de moi, que je suis pas une bonne mère, que je sais pas gérer, que je sais pas... Vous savez, radio-moi, hein, tout ce que je peux me dire à l'intérieur de moi, ou bien simplement, peut-être que mon enfant est en train de me demander quelque chose et je n'ai pas encore... je ne sais pas encore ce qu'il attend de moi ou ce qu'il veut de moi. Et là, c'est en le questionnant aussi après le caprice, entre guillemets, ou après, et prendre dans vos bras, hein. Surtout prenez-le dans vos bras parce que vous allez déclencher les hormones aussi du retour au calme. Parce que face à l'adrénaline et à la cortisol, ben oui, quand on est en colère, il y a une montée, une charge émotionnelle. Donc il y a l'amygdale qui déclenche en fait et qui envoie l'information donc à l'hypophyse, l'hypothalamus, d'envoyer aux glandes surrénales, d'envoyer de l'adrénaline ou de la cortisol.
C'est-à-dire que quand vous vous mettez en colère, vous vous faites du mal. Hein.
Oui, bien sûr, on se fait du mal. Sûr. Et surtout quand on n'arrive pas à trouver un chemin pour la sortir. Donc votre enfant, quand il se met à pleurer ou à chouiner, c'est un chemin d'évacuation, c'est un chemin de régulation de ce qui se passe dans son cerveau et dans son corps. Il est en train de sortir, d'évacuer toutes ses hormones. En l'aidant, en le prenant dans vos bras, je sais que ça c'est le plus difficile, Yasmina, quand vous êtes en colère et de prendre votre enfant dans les bras, vous avez juste envie de lui recoller une, qu'on va pas faire, bien sûr, d'accord? Vous avez juste envie de faire ça, mais ne le faites pas, prenez-le dans vos bras, et vous allez voir, le fait de prendre dans les bras, qui est le contact, d'accord? Et il faut que le contact, il dure au moins 15 secondes. Moins 15 secondes, donc ça va. 15 secondes, vous comptez, hein, et vous le prenez, vous allez voir, ça fait redescendre et ça crée un chemin pour évacuer l'excès de cortisol et d'adrénaline.
D'accord.
D'accord. Ou alors, vous sautez avec lui, vous dites, ah, on est en colère. Allez, pendant 5 minutes, là, on va sauter sur place. On crie, on bouge. Et hop, c'est évacué.
C'est un bon truc, ça marche.
Je fais ça tout le temps, moi.
Allez, on est en colère.
C'est génial. Allez, on sort la colère. Allez, on y va. Le coussin de la colère, ça aussi, c'est aidant. Surtout à cet âge-là. Ou alors, moi, ce que je fais aussi, je prends un papier, une feuille rouge qui représente la colère, une grande feuille à trois rouge, je la pose au sol et je dis maintenant, t'as le droit d'exprimer toute ta colère sur cette feuille. Allez, tu montes sur cette feuille et tu sautes et tu exprimes. Tu peux dire, il peut même dire des gros mots à ce moment-là. Moi, je l'autorise.
Ok, d'accord.
Juste sur cette feuille. Mais une fois qu'il sort de cette feuille, on va mettre une autre feuille bleue ou grise pour amener en fait le changement. Il dit, eh ben là, maintenant, on respire un grand coup. Ça y est, la colère, elle est sur la feuille là-bas, après, on l'a déchargée.
Après, c'est les voisins qui disent que vous n'allez pas bien, mais c'est pas très grave.
Non, ça, c'est pas grave.
Ça, c'est un autre problème.
Oui, se libérer du regard des autres, ça aussi.
Ils sont en train de sauter sur une feuille rouge, mais ça va bien. Okay. Sinon...
Ça vous aide, Yasmina?
Bien sûr que ça m'aide, bien sûr. Il y a plein de conseils et plein de réponses que j'espère que je pourrai appliquer.
Bon, il s'appelle comment, votre petit bonhomme?
Il s'appelle Mohamed.
Bon, Mohamed, voilà. Enfin, un gros bisou à Mohamed.
Voilà. Il est à l'école, donc gros bisou à lui.
Voilà. Et à vous aussi.
Et bonne journée de boulot à maman.
Ouais,
bonne
journée de boulot. Merci, c'est gentil. Bonne journée à vous aussi.
Merci Yasmina, au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.
Bon, on parle de la colère, vous l'avez compris ce matin. Et vous avez des conseils. Karima est venue avec sa boîte à outils au 01 53 48 3000. C'est le standard d'A votre santé, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
La scène colère ce matin, et on en parle avec Karima Shadibaou qui est avec nous. Vous êtes là au 01 53 48 3000, vous posez vos questions à Karima, et on a Leïla qui est avec nous. Leïla, bonjour et bienvenue.
Bonjour, bonjour Philippe, bonjour Karima.
Bonjour Leïla, bienvenue.
Le coucou à Kim, merci.
Voilà, Kim qui est là avec nous aussi.
Très bien. Ben, en fait, je vous appelle parce que je suis maman de deux enfants. Donc, j'ai un garçon de 5 ans et j'ai une fille de 3 ans. Et avec la fille, c'est très, très dur. Bon, je sais que c'est un petit peu de ma faute parce que je suis très fusionnelle avec elle. Donc, je cède un petit peu à ses caprices.
D'accord.
Voilà, et souvent avec mon mari, il me dit oui, mais c'est de ta faute parce que c'est toi qui cèdes trop. Et donc c'est une fille qui va beaucoup chouiner. Quand elle a envie de quelque chose, elle fait tout pour l'avoir. Et en fait, au bout d'un moment, quand on est fatigué, en plus je suis une maman qui fait par exemple du télétravail, donc quand elle sort de l'école, je suis obligée de... par exemple, si elle demande le téléphone alors que je suis en réunion, je vais lui donner. Pour avoir la paix, alors que mon mari me dit mais non, il faut pas, sinon elle prend de mauvaises habitudes. Donc si je peux avoir un conseil sur comment je devrais me comporter avec elle.
D'accord. Alors, voilà. Alors Leïla, déjà avant de vous de me dire comment vous devriez, alors vous savez, nous on est on n'est pas dans le devoir, on est dans le vouloir, c'est-à-dire comment vous pouvez faire, déjà vous, comment vous voulez être avec elle, déjà. On part de ce que vous avez envie, comment vous voulez être avec votre fille. Vous avez dit que vous étiez fusionnelle, vous avez dit que des fois, de ce que dit votre mari, hein, que c'est certaines limites que vous laissez faire, en fait, un peu manipuler par votre fille.
Voilà, exactement.
C'est un peu ça.
Par exemple, elle va enlever un jouet à son frère. D'accord. Comme son frère, il est plus gentil, le garçon, je vais lui dire, vas-y, mon fils, toi, t'es adorable, donne-lui. Alors que je sais que normalement, je devrais pas faire ça.
D'accord.
Lui, elle a pas à lui enlever.
D'accord. Elle a quel âge? Rappelez-moi l'âge de votre fille.
Trois ans,
oui. Donc, elle est à l'âge d'apprendre, en fait, à partager. Vous savez comment?
Elle a un très fort caractère.
Oui, ah oui, ben c'est bien.
Mais est-ce qu'elle est plus forte que son frère physiquement ou pas?
Oui. Physiquement, non.
Non,
mais
non.
Côté caractère, oui.
D'accord.
Le garçon, il est plus, on va dire, il est plus souple. Mais elle, non.
D'accord.
Du tout.
Donc, votre fille, elle a un caractère affirmé. Déjà, vous allez changer votre point de vue sur elle. Ça, c'est la première des choses, Leïla. Changez votre fille, votre point de vue, et vous le faites avec votre mari, c'est-à-dire ma fille, comment moi je la vois. Vous savez, ça, c'est l'effet Pygmalion.
L'effet Pygmalion, faut la tête dure.
Vous lui dites qu'elle a la tête dure?
Oui.
Ah, ça, il faut l'enlever. D'accord, Leïla?
Iqbiha aussi.
La habiba, la habiba a dit non, celle-là, iqbiha, iqbiha, ça veut dire méchante, vous l'enlevez, celle-là, vous lui dites non, au contraire, parce que plus vous allez répéter, vous savez, on appelle ça les prophéties autoréalisatrices, que font les parents sur les enfants. C'est-à-dire que ce que vous attendez d'elle, vous dites, ah, ça y est, je suis sûre qu'elle va me faire une bêtise, je suis sûre qu'elle va tomber, je suis sûre qu'elle va pas partager le jouet, je suis sûre qu'elle va faire, eh ben, forcément, ça se réalise. D'accord, parce que vous
pour
portez.
Vous dire, hein,
par exemple, allez-y.
Excusez-moi.
Allez-y.
Par exemple, entre moi et son père, c'est une fille qui n'aime pas la force. Par exemple, je vais lui dire arrête de faire ça. Par exemple, si elle fait des bêtises, je vais lui dire oui, arrête de faire ça. Son père souvent, il est plus ferme avec elle.
Oui.
Elle va pas le faire. Elle va bouder. Elle va jeter ce qu'elle a dans les mains. Mais par contre, si je m'y prends avec elle, ma fille, toi, t'es une fille sage. Tu écoutes maman. Mm-hmm. Donc c'est pas bien ce que tu fais. Elle va arrêter.
D'accord. Donc déjà, elle a compris en fait comment est-ce qu'elle peut rentrer dans les faveurs de maman. D'accord. Donc c'est déjà. Donc ça prouve tout ça. Qu'est-ce que ça prouve, Leïla? Ça prouve que vous avez une fille qui a un caractère affirmé et plus capricieux. Donc changez capricieux par affirmé. D'accord. Orientez-le vers le positif. Que vous avez une fille qui sait ce qu'elle veut. D'accord.
Beaucoup.
Ça veut dire qu'elle est déterminée. Et ça, c'est ce qu'on recherche. Une forte personnalité. On veut pas. Vous voulez que votre fille soit un tigre ou un mouton?
Faut moi, pas je dis casser souvent, sa personnalité.
Non, exactement. Ne la cassez pas.
Sa mère, elle est comme ça. Donc.
Voilà. Ne la cassez pas. Au contraire, dites-lui, waouh, je vois qu'au-dessus de tes 3 ans et demi, tu sais déjà ce que tu veux, mais c'est magnifique. Ok. Maintenant, avec toi, ce que tu veux et ce que attend maman, on va voir si les deux coïncident. D'accord, oui. C'est plus, vous êtes plus dans une démarche coopérative. Alors moi, c'est celle-là, hein, c'est cette démarche que, et pas dans une démarche de domination où vous allez la soumettre. Si votre mari déjà, elle l'écoute, vous l'avez dit, il est beaucoup plus, il est plus ferme.
Ah, oui,
donc lui, laissez-le, c'est son truc à lui, d'accord. Laissez-le. Vous allez travailler ça, c'est-à-dire ses aptitudes et ses attitudes qu'elle a déjà naturellement au lieu de les casser, comme l'a dit Philippe, au lieu de les refouler, parce qu'ils vont sortir à un moment donné. Donc, si c'est pas à la maison, ce sera à l'école. Si c'est pas à l'école, ce sera avec ses amis. D'accord? Parce que c'est sa nature. Donc, ne cassez pas sa nature. Accompagnez-la. Voyez, c'est comme une plante. Voyez la plante quand vous voulez qu'elle s'élève plutôt, ou quand elle est trop élevée et que vous voulez qu'elle s'élargisse. Je fais un peu de jardinage. Vous allez mettre des tuteurs, c'est-à-dire l'accompagner pour qu'elle puisse s'épanouir. Donc, changez le point de vue que vous avez sur votre fille. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est que vous allez aussi vous entraîner. Vous entraînez à affirmer ce que vous voulez. D'accord? Pour que vous évitez de tomber dans le chantage affectif parce que vous avez dit que vous étiez fusionnel avec votre fille. Donc, est-ce que vous avez peur de perdre l'amour de votre fille? C'est votre unique fille?
Non, non, du tout.
Il n'y a pas de ça.
Non, c'est non. Parce que je suis fille unique et du coup, j'ai toujours voulu avoir une sœur. Voilà. Donc, je pense que le fait d'avoir eu une fille, pour moi, elle représente tout. Voilà.
Qui en plus a votre caractère, hein, l'avez dit.
Vous l'avez dit.
Exactement.
Donc c'est un mini moi.
Ben oui.
Donc vous voyez,
c'est mini
mi,
oui.
Ouais.
Exactement.
Et dites-moi, voilà. Leïla, vous étiez comment à son âge?
En fait, quand mon papa la voit, il me dit, elle était comme toi, hein, parce que j'ai eu trois frères, donc entre garçons, une seule fille cherche toujours à s'imposer, hein. Donc,
oui. Oui. Voilà. Donc dans ce cas-là, déjà, vous pouvez aussi poser la question à votre père ou à votre mère, leur demander comment ils faisaient avec vous justement. C'était puisqu'il vous voit en elle, il dit, bah, elle est comme toi. Comment est-ce qu'elle
Vous savez, pour vous dire,
oui.
J'ai vécu en Algérie, je suis née là-bas.
Oui.
Et c'est pas du tout la même éducation. Mon père, quand il ouvrait les grands yeux, on s'arrêtait tout de suite.
D'accord.
Les générations de maintenant, c'est plus le cas.
Oui, c'est la question de l'autorité, voilà. En fait.
Donc,
oui.
Exactement, c'est plus le cas. Donc nous, 19h, on dînait, le papa nous regardait, allez hop, tout le monde au lit, c'était ça.
D'accord. Donc je vais vous par rapport à ça, par rapport à développer aussi l'autorité avec votre fille, sans la casser, sans la brimer, sans être violente avec elle, vous allez donc lui donner déjà quand vous allez la voir d'une autre manière, vous allez lui proposer une autre manière de se voir. C'est-à-dire que vous allez la libérer des étiquettes que vous avez déjà posées sur elle. Ensuite, vous allez exprimer vos attentes, comme ce que j'ai dit tout à l'heure à la dame avant, à Yasmina. Donc, dites-lui vraiment les attentes, ce que vous attendez d'elle. Que vous savez qu'elle est capable de partager les jouets et que c'est sûr qu'elle aura encore envie de garder, qu'elle veut pas, qu'elle veut arracher le jouet à son frère ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, vous lui montrez une autre manière de faire. D'accord? Alors, souvent, les parents ici, quand les enfants arrachent les choses, ils font la même chose. Ils disent, bah, tu vois, c'est pas agréable, hein. Non, ça
non,
marche
non,
pas.
Je lui parle, hein. Mais comme vous savez, Karima, des fois, on est fatigué.
Oui.
Du coup, voilà, expliquer et parler, quand on le fait une fois et que ça n'écoute pas, au bout d'un moment, on est au bout de nos forces et après, ça sera, vas-y, va dans ta chambre.
D'accord. Donc, ça veut dire quoi ici, Leïla? Ça veut dire qu'il faut que vous choisissiez vos batailles. Ne soyez pas sur tous les fronts. Choisissez, dites-vous, cette semaine, je vais travailler que ça avec elle. Une seule chose. D'accord? Vous la travaillez, le reste, vous regardez pas, vous réglerez ça plus tard. C'est-à-dire, donnez-vous des challenges chaque semaine, un défi, je vais travailler ça avec elle. Et travaillez-le quand c'est le bon moment pour vous. Genre, quand vous êtes fatigué, ça sert à rien de vouloir faire de la bienveillance quand on est fatigué, qu'on a juste envie de débrancher la tête et le cœur et de se reposer. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi vous écouter. Donc, vous choisissez vos batailles, choisissez le moment, d'accord? Et montrez à votre fille, écrivez vos attentes, c'est-à-dire avec à 3 ans et demi, vous allez sur Internet, il y a des pictogrammes, des choses de ce que vous attendez d'elle. Donnez-lui 5 choses, par exemple, qu'elle doit faire dans la journée et sur lesquelles vous allez l'exprimer et c'est-à-dire vous allez le discuter avec elle. C'est-à-dire vous le co-construisez avec elle.
Elle le sait, hein.
Mais même si elle le sait, Leïla, éduquer, c'est répéter. Éduquer, c'est répéter. Donc ça, vous allez répéter jusqu'à ce que ça rentre.
Elle parce me dit que des fois, t'as vu maman, j'ai été sage aujourd'hui. Donc je me dis, elle sait très bien ce qu'elle veut.
Oui, dites-lui, oui, et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire, renvoyez-lui à chaque fois vers elle.
Je la tire vers le positif, je lui dis, très bien, t'as vu, t'as été gentille, maman, elle était contente, je t'ai pas grondée, je t'ai pas criée, donc c'est très bien. J'essaye de parler.
Voilà. D'accord. Alors, vous allez pas le formuler en négatif, Leïla, mais formuler en positif. Au lieu de dire, je t'ai pas grondée, vous allez plutôt dire on a passé un bon moment. C'est-à-dire vous allez, si vous dites je t'ai pas grondé, t'as été gentil, t'as été, parce que vous êtes toujours dans l'évaluatif. C'est quoi l'évaluatif? C'est-à-dire c'est bien, c'est pas bien. Vous êtes dans un jugement. Dites plutôt, aujourd'hui, tu as vu, on a passé un bon moment. J'ai passé un bon moment. Qu'est-ce que tu en penses? Comment ça a été cette et votre fille va le relever elle-même et vous êtes en train en fait de lui transmettre aussi l'esprit critique. C'est quoi l'esprit critique? C'est-à-dire qu'elle est capable d'évaluer, de voir à quel moment c'est ok, à quel moment c'est pas ok. Dans quel contexte c'est approprié, dans quel contexte c'est pas approprié. Mais si vous lui dites, tu as vu, je t'ai pas grondé, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, vous êtes en train de faire une liste de tout ce qu'il ne faut pas faire. Et de tout ce qui est négatif. Donc du coup, l'esprit va se focaliser que sur le négatif. Mais si vous dites, j'ai apprécié ce moment, c'était calme, c'était détendu, on a été au bout de notre activité. Ah, qu'est-ce que j'aime bien travailler comme ça. Qu'est-ce que j'aime bien être dans cette énergie-là. Qu'est-ce que j'aime bien. Et là, votre fille, eh ben, elle est pas bête, elle est très intelligente même. Elle va dire, ah tiens, maman, c'est ce qu'elle apprécie. Du coup, ben, maman criera moins, maman fera moins la tête, maman sera moins fatiguée, maman... Elle va voir tout ça et ce sera tous les bénéfices. D'accord, Leïla?
Ok, une ça dernière question. Très bien. Une dernière question, Karima, s'il vous plaît.
Dites-moi.
En fait, si par exemple, ça nous arrive d'aller au resto et bon, elle fait ses caprices et tout. Donc moi, au resto, il y a des gens. J'aime pas me taper la honte. du coup, je vais donner mon téléphone. Avec moi, c'est souvent la guerre. Pourquoi tu cèdes? Pourquoi? Mais je lui dis, on est au restaurant. C'est un petit moment. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors moi, ce que je vais vous dire.
Déjà, est-ce que les restaurants, ce sont des lieux pour des enfants?
Oui, déjà, il y a ça. Et puis après, en famille, quand on
C'est différent.
Moi, je vais quand je vais au restaurant, quand mes enfants étaient petits, nous, on allait toujours sur l'espace familial. Parce qu'il y avait plein d'enfants tout autour.
Voilà.
Il y avait les menus enfants. Et quand je voulais aller au restaurant qu'avec mon mari, on y allait que tous les deux, je faisais garder les enfants. Parce que des fois, on veut imposer ce que t'es en train de dire, Philippe, en fait. Imposer des choses, des fois, aux enfants où le contexte n'est pas approprié. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, faites un jeu de rôle avec elle. C'est-à-dire, vous faites une mise en situation à la maison, vous faites comme si vous étiez au restaurant. Les enfants, ils adorent faire ça, faire comme si. On va faire comme si on est au restaurant, d'accord? Et vous allez lui dire, c'est quoi les attitudes adaptées au restaurant? Comment on fait? Comment on se tient? Comment on mange? Comment on parle? Est-ce qu'on parle fort? Est-ce qu'on chuchote? Et votre fille, elle va apprendre à le faire dans le jeu de rôle. Donc vraiment une mise en situation avant d'aller au restaurant, d'accord? Ça c'est la deuxième chose. Troisième chose, libérez-vous Leïla du regard des autres, d'accord? Le regard des autres. Si votre fille, vous allez au restaurant, si vous avez fait tout ce qu'on a dit là et que ça marche pas et que vous allez quand même au restaurant et qu'elle fait ses caprices et qu'elle fait, donc au lieu de donner votre téléphone, vous la regardez, vous lui dites je n'accepte pas ce comportement. Et même si les gens vous regardent, n'hésitez pas parce que les enfants, vous savez. Ils aiment nous tester quand on est occupé à autre chose, quand on est au téléphone, quand on est... Et c'est là
quand
où ils viennent chercher de l'attention.
Elle fait la même chose quand je suis en réunion, télétravail. Oui. Et moi, pour me libérer, parce que je ne veux pas me taper la honte en plein réunion,
du coup,
elle me demande mon téléphone, je lui donne.
Oui,
Vas-y, dans la chambre.
Dites-lui, n'ayez pas peur des émotions de votre fille, n'ayez pas peur, dites-lui tout simplement, non, tu n'auras pas ça, et ce sera comme ça, d'accord? Et libérez-vous vraiment du regard des autres. Ok,
c'est un bon
Leïla
sujet d'émission que vous nous suggérez là, Leïla. Merci en tout cas pour votre appel. Merci carrément. On vous retrouve mercredi.
Absolument. Merci beaucoup.
Vous reverrez cette émission sur la chaîne YouTube et puis vous réécouterez le podcast sur beurrefm.net. Et en attendant, vous passez une très belle journée santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.